grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse en direct ou en podcast. Parfois considérée comme une science exacte, la médecine reste avant tout un art du diagnostic, exercé par des hommes et des femmes qui ne sont pas des super-héros, des dieux tout-puissants, infaillibles, à l'abri des erreurs. De la préhistoire à aujourd'hui, la médecine est passée d'un bricolage parfois génial aux promesses de l'intelligence artificielle. Et plus la médecine se sophistique, plus nous sommes exigeants. Nous lui demandons parfois l'impossible, qu'elle nous guérisse à coup sûr, qu'elle empêche de retomber malade, et surtout qu'elle ne se trompe jamais de diagnostic. On s'intéresse ce matin à cette médecine qui navigue entre sciences exactes et sciences humaines. Pour nous éclairer ce matin, les professeurs Philippe Humbert et Jean-Noël Fabiani, le philosophe de la médecine Maëlle Lemoine et la journaliste Hélène Froire, et avec bien sûr les questionnements d'Aline Perraudin de Santé Magazine. Et vous, qu'attendez-vous de la médecine? À quoi doit-elle ressembler dans l'idéal? Et puis dites-nous si vous avez déjà vécu des erreurs de diagnostic ou une errance médicale. 01 45 24 7000. Il y a également l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Aline.
Médecin, écrivain, auteur du blog Alors Voilà, on vous retrouve chaque lundi. Vous nous racontez une médecine à visage humain.
Aujourd'hui, je vais vous parler Prout, dépression et Marguerite Duras.
A tout à l'heure Baptiste Beaulieu. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rémy.
Bonjour à tous nos invités. Bonjour professeur Jean-Noël Fabiani.
Bonjour.
Chef oui. du service cardiologie à l'hôpital européen Georges Pompidou. Vous publiez une BD très pédagogique, excellente, l'incroyable histoire de la médecine. Philippe Humbert, bonjour.
Bonjour.
Professeur de médecine à l'université de Franche-Comté et l'auteur d'Avez-vous un bon médecin? Bonjour Maëlle Lemoine.
Bonjour.
Philosophe de la médecine, maître de conférence à l'université de Tours. Hélène Froire, journaliste à l'indispensable Sciences Humaines qui publie un hors-série qui s'appelle Soigner, une science humaine. Alors l'Organisation Mondiale de la Santé nous dit que la médecine œuvre pour restaurer la santé, c'est-à-dire guérir les maladies, mais également elle doit contribuer cette santé au bien-être et au bonheur. Peut-on définir de façon objective ce qu'est la santé? Tiens Maëlle Lemoine. Parce que ça pose la question entre ce qui relève de la normalité et ce qui relève de la pathologie.
Alors, en gros, il y a deux types de définitions, très simples. Le premier type de définition définit la santé et la maladie comme des états biologiques. Et le deuxième type de définition définit la santé et la maladie comme des états plutôt sociologiques, c'est-à-dire des états qu'on estime indésirables. Voilà en gros le champ.
Hélène Froire.
Oui, je suis tout à fait d'accord et ces définitions sont très compliquées. Je prends l'exemple de l'obésité. On peut la définir comme le fait l'OMS en disant que c'est quand l'indice de masse corporelle est supérieur à 30. Très bien, mais il y a aussi des femmes qui n'auront peut-être pas cet indice, mais qui vous expliquaient qu'elles seront discriminées à l'embauche à cause de leur poids, où se trouve la maladie du côté du social, du côté du biologique. Donc on voit bien que ça peut être compliqué à définir.
Et Aline Perraudin?
En fait, c'est vrai, ce qui est normal à une époque aussi peut ne pas l'être à une autre. Donc on voit que c'est extrêmement difficile de définir la santé, la bonne santé, parce qu'en ce moment, on est très exigeant aussi. On veut être aussi peut-être augmenté dans notre santé. On demande encore mieux.
Oui, et justement, ce que je trouve particulièrement intéressant parmi les auteurs qui ont contribué à ce numéro, c'est la façon dont ils mettent en valeur les évolutions. C'est-à-dire que le périmètre de la santé passe son temps à changer. Je vais prendre deux exemples que je trouve particulièrement éclairants. L'homosexualité a longtemps été considérée comme un problème médical. Ça viendrait plus à l'esprit à personne, de penser ça. Ça a été démédicalisé. Et à l'inverse, par exemple, les enfants agités, qui sont aujourd'hui devenus un problème médical, on se demande s'il faut le traiter ou non, est-ce qu'on doit donner ou non de la ritaline. Je pense qu'il y a 40 ans, c'était un problème exclusivement éducatif. Donc on voit bien que les périmètres évoluent avec le temps.
Jean-Noël Fabiani, pour parvenir à cette définition canonique de la santé par l'OMS, il a fallu traverser une longue histoire depuis l'apparition de l'homme sur Terre. D'autres hommes se sont proposés de soulager ces maux, ces douleurs, avec les moyens du bord. Ça a commencé par un bricolage, parfois génial.
Oui, c'est très simple. Enfin, au départ, quand même, faut revenir à la biologie, à la nature. L'homme est comme toutes les espèces animales. Il est sur Terre pour se reproduire et pour favoriser une nouvelle génération qui elle-même va se reproduire. Ce qui se passe en dehors de ça, à la limite, c'est pas le problème de la nature. Et pourtant, bien entendu, l'homme qui a été fait pour être pour vivre mal, mal manger. Le chasseur-cueilleur, il n'avait pas à manger tous les jours. Et pour avoir une mortalité infantile absolument extraordinaire, grâce à la médecine, grâce à la civilisation, eh bien, il devient pléthorique et pullulant. Pléthorique parce qu'il mange beaucoup plus et il devient obèse, d'où les grandes épidémies actuelles comme celle du diabète. Et pullulant, eh bien, parce que notre population est en train d'augmenter en des proportions exponentielles. Et qu'on le veuille ou non, chaque nouvelle naissance est un nouveau polluant sur Terre.
Mais au tout début, à la préhistoire, magie et médecine se confondent.
Magie et médecine se confondent. Comment il peut en être autrement, bien entendu. Alors, il y a des recettes, bien entendu, mais grosso modo, le sorcier, c'est celui qui va, l'homme médecine, c'est celui qui va donner quelques plantes et qui va donner quelques salamalecs pour permettre à tout le monde de survivre.
Et la médecine a longuement tâtonné avant de devenir une science, entre guillemets, elle-même.
Bien entendu, elle a longtemps tâtonné. Et c'est bien le grand mérite de notre père à tous, Hippocrate, qui est le premier à séparer la magie et la médecine, qui est le premier à faire écrire sur des tablettes tous les signes, parfois trop, quand on relit le canon, c'est un peu trop, mais il a quand même été une démarche scientifique pour répertorier les maladies.
Et il rédige, ce fameux Hippocrate, des observations pour chaque maladie, oui. Et il répertorie tous les signes cliniques.
Absolument, tous. Alors par exemple, pour les épileptiques, il remarque que souvent ils zézayaient. Alors on sait bien sûr que le fait de zézayer n'est pas un facteur de risque de l'épilepsie actuellement, mais en tout cas Hippocrate le notait.
Mais le moine, c'est Hippocrate à qui sort la médecine de la magie et de la superstition.
Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord. Et le point, par contre, qui est tout à fait frappant aussi, c'est les progrès accomplis évidemment depuis Hippocrate. C'est-à-dire que Hippocrate répertorie en réalité une vingtaine de maladies seulement, comparé à la classification internationale des maladies aujourd'hui qui en répertorie 17 000. On voit c'est un indice, disons, du progrès fait.
Mais pendant des siècles, celui qui soigne, ça peut être un rebouteux, un guérisseur, un magnétiseur, Jean-Noël Fabienne.
Mais bien entendu, il a fallu que progresse. Effectivement, on a fait entrer les médecins dans un cadre. Et en France, c'est la Révolution française qui met quand même...
Une loi de 1795.
Absolument. C'est la loi de 1795 qui dit, voilà, ça c'est les médecins et les chirurgiens. Pour la première fois, on les reconnaît sur le plan national, ces chirurgiens. Eh bien, ceux-là, ils auront fait des études qu'on nous dit imprécis dans le type d'études qu'il faut faire. Ils auront un diplôme. Et seuls ceux-là pourront faire de la médecine. Les autres seront donc... par définition des charlatans.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
On voit quand même des choses incroyables dans l'histoire de la médecine, parce que même au siècle des Lumières, c'est Anton Sardechnik, un historien qui a parlé de l'histoire de la réanimation et qui montre qu'on insufflait du tabac dans l'anus des noyés.
Mais bien entendu.
Donc là, vous parlez de la médecine qui est des progrès, mais il y a plein de choses oubliées.
Bien sûr, parce que pour le tabac, ça venait de l'Amérique, vous comprenez, c'était un progrès formidable. Alors, sur le bord de Seine, parce que le grand problème à Paris au XVIIIe siècle, ce sont les noyades. Personne ne sait nager, tout le monde a des grandes robes, tout le monde va à la Seine pour laver son linge, pour prendre de l'eau, et tout le monde se noie. Alors, on avait remarqué qu'en mettant du tabac, du fumée de tabac dans le derrière, eh bien, ça apportait... ça apportait rien du tout, bien sûr, mais, mais tout le monde était persuadé qu'en tout cas, ça allait sauver les gens.
Ça venait, en fait, des croyances de carnaval, et c'est vraiment cette intrication entre la médecine officielle et aussi la médecine populaire.
Alors, au XIXe siècle, on assiste à une révolution de la médecine expérimentale, et je pense, bien évidemment, à la grande figure de la biologie médicale, la figure de Claude Bernard.
Évidemment, Claude Bernard, digne élève de Magendie, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Magendie qui lance un petit peu le mouvement expérimental, même s'il a des idées un peu particulières, Magendie. Mais Claude Bernard, c'est une révolution dans la pensée médicale. Il mettra du temps, évidemment, à s'imposer. Et les premiers laboratoires dans les hôpitaux de Paris n'apparaîtront qu'à la fin du XIXe siècle.
Mais le moine, c'est à ce moment que la médecine se constitue en science. Absolument. À partir de Claude Bernard, grosso modo.
On pourrait même dire un petit peu avant, moi j'aurais bien volontiers évoqué le nom de Bichat.
Il est mort tellement jeune, ce pauvre Bichat.
Il est mort tellement jeune,
qui
avec
était
une œuvre énorme. Alors Bichat était en fait un jeune médecin, parce qu'effectivement il est mort à 32 ou 33 ans, en laissant derrière lui une œuvre absolument énorme et tout à fait fondamentale. Il est le premier, pour dire juste les choses un tout petit peu techniquement, il est le premier à décrire les organismes en termes de tissus. C'est-à-dire c'est le premier à découvrir que l'organisme est constitué de tissus, en plus d'être constitué d'organes. Voilà.
Et c'est donc au XIXe siècle qu'apparaissent les fondements du vivant, grâce par exemple à la biologie cellulaire, à la génétique.
Absolument.
Jean-Noël Fabiani.
Bien entendu. Y a eu de très grandes recherches qui ont été faites au 19e siècle et on commence à s'intéresser à la cellule. Alors il y a des très grands noms, ils sont pas tous français, loin de là. Il y a Virchow, par exemple, qui a été en Allemagne très important pour dire que c'est peut-être dans la cellule que se passait la maladie et que c'est la cellule qui portait finalement le stigmate de la maladie. D'autres ont commencé à mettre les premiers points de les premiers poids de la génétique, parce que je pense à Mendel, bien entendu, et la génétique va devenir au 20e siècle la science qui va permettre véritablement de comprendre mieux le vivant.
Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une médecine moderne qui est dans une course folle vers les nanotechnologies, l'intelligence artificielle? Je pense par exemple à ce scientifique, à ce médecin de l'université de Shenzhen en Chine, qui a diffusé une vidéo annonçant la naissance de jumelles dont l'ADN a été modifié pour les rendre résistantes au virus du sida. C'est un exemple de cette course folle de la médecine et de la science et des technologies.
C'est un exemple appliqué à l'humain, parce que depuis très longtemps, on sait faire ça chez les bactéries, chez les animaux. Autrement dit, jouer au chirurgien de l'ADN, on sait faire. On sait couper des morceaux, même en remettre d'autres. On force même des bactéries à fabriquer, par exemple, des médicaments. Donc, on sait faire ça. Mais bien sûr, tout le monde dit, ne touchons pas au génome humain, parce que c'est trop dangereux. Parce que ce qu'a fait quand même ce médecin, c'est quand même un travail d'apprenti sorcier. On ne sait pas ce que ça va donner. On peut espérer qu'en effet ces deux bébés seront protégés contre le sida, mais soient-ils protégés ou affaiblis vis-à-vis d'autres maladies, par exemple? On ne sait pas. On est vraiment dans l'inconnu pour le moment.
Maëlle Lemoine, sur cette course folle qui allie médecine, technologie...
Globalement, puisque vous parlez du 19e science. Siècle à l'instant, ce qui s'est passé au 19e siècle, c'est qu'on commence à être en mesure de diagnostiquer et de pronostiquer avec une certaine certitude, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui va arriver à un patient qui présente tel ou tel signe, mais sans pouvoir les traiter encore. Et ce qui se passe au 20e siècle, c'est évidemment très schématique, mais ce qui se passe au 20e siècle, c'est justement ces moyens thérapeutiques qui apparaissent. Et l'exemple auquel vous faites référence, il faut rester prudent pour le moment, oui. Parce qu'en fait, il est très difficile de vérifier ce que prétend ce chercheur. C'est tout à fait plausible, hein, mais ce n'est pas encore vérifié. Ça serait évidemment une avancée absolument majeure avec tout ce que ça comporte en termes de discussion.
Professeur Philippe Humber, quels sont les risques de cette course folle de la médecine vers encore plus de sciences, encore plus de technologies? C'est l'oubli de l'humain, comme ces jumelles chinoises qui ressemblent à des rats de laboratoire?
Oui, tout à fait, parce que pour un médecin, la médecine, c'est avant tout répondre aux malades qui présentent des symptômes. Ici, avec ce chercheur chinois, on n'est pas devant ce problème-là. La médecine restera toujours un face-à-face entre le patient et le médecin, le patient disant ce qui ne va pas, ce qu'il pense ne pas aller, et le médecin trouvant l'origine.
Hélène Froire, dans le numéro de Sciences Humaines, à l'hors-série, vous vous demandez si le progrès médical et l'éthique sont conciliables.
Oui, je prends l'exemple du recueil des données. Donc c'est très utile si vous êtes diabétique de savoir en permanence ce que vous devez faire, comment adapter votre alimentation. Mais où vont vos données? Qui les recueille? Qu'est-ce qu'on va en faire? Ce sont des questions auxquelles il faut absolument répondre au moment où tous ces outils se développent.
Alors ce matin, on se demande si la médecine est une science exacte, mais on parle parfois de la médecine comme d'un art. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Philippe Humber?
Un art, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Le médecin va établir son diagnostic avec ses capacités, avec sa façon d'interroger, sa façon d'examiner. Et aujourd'hui, on a un peu tendance à faire confiance aux examens complémentaires. Vous avez mal à la tête et on va vous faire un scanner ou une IRM. Or, le mal de tête qui serait la migraine n'a aucun signe en IRM ou en scanner. Et donc, c'est l'interrogatoire, la façon dont les symptômes arrivent, qui va permettre de faire ce diagnostic. Donc, il faut utiliser les examens complémentaires comme des outils. Mais il faut qu'on regarde aussi le nombre considérable d'examens complémentaires qui sont normaux, ce qui veut dire qu'on a fait des prescriptions en excès et à tort.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
Mais est-ce que par exemple Watson, qui est le super calculateur, aujourd'hui comment il pourrait avoir sa place, parce qu'il fait aussi des diagnostics en fait, comme les médecins?
Oui, alors on peut faire des diagnostics dès lors qu'on a rentré tous les éléments dans la machine. Et le propre du médecin, sa sagacité, ça va être d'aller chercher un petit signe que personne, auquel personne n'aurait pensé, qui va peut-être tout chambouler. Prenons quelqu'un qui a des troubles digestifs. La notion d'un aft, encore faut-il poser la question, peut conduire à des diagnostics qu'on n'aurait pas envisagés.
Jean-Noël Fabiani.
Oui, vous savez, moi j'ai passé quand même ma vie à opérer des malades qui n'avaient strictement aucun signe. Hein, par exemple, j'ai opéré des milliers d'anévrismes. Or, l'anévrisme est une maladie qui ne donne aucun signe, pour ainsi dire, et qui, le jour où elle se complique, en général, entraîne la mort du patient. Donc, Je suis d'accord avec vous, mais je pense quand même que les examens complémentaires de dépistage ont un rôle fondamental et ont changé le pronostic de la vie des hommes de plus de 50 ans à la suite de la Framingham Study, parce que on a dépisté systématiquement des pathologies qui étaient en quelque sorte latentes et insidieuses.
Il y a deux approches, en effet, le dépistage systématique en l'absence de symptômes et puis la réponse à des symptômes. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
J'ai trois médecins autour de la table. Vous avez plutôt l'impression d'exercer un art ou une science, Baptiste Beaulieu ?
Moi, c'est vraiment un art et c'est très compliqué quand on a passé 10 ans à apprendre cet art, à désapprendre ce qu'on a appris. C'est-à-dire que les notions qu'on pensait vraies peuvent du jour au lendemain s'avérer fausses. Je pense par exemple à l'autopalpation mammaire où on commence de plus en plus à dire que c'était peut-être pas une si bonne idée parce qu'on s'est retrouvé à opérer des femmes pour rien, à les mutiler pour rien, parce qu'elles s'inquiétaient très vite et qu'on a surdiagnostiqué avec des examens invasifs, des cancers qui n'existaient pas. Et tout ça, c'est très dur à désapprendre quand pendant 10 ans on nous l'a mis dans la tête. Et donc c'est à la fois un art, une science, c'est très compliqué.
Philippe Humbert.
Je pense que c'est un art avec les outils qui sont la science. En fait, les examens complémentaires, la biologie vont être des outils qui vont permettre de constituer ce diagnostic.
Jean-Noël Fabiani.
Moi, je pense que ça reste un art. Et d'ailleurs, quand j'étais tout jeune médecin, je me suis retrouvé en Afrique. Ça s'appelait la Haute Volta à l'époque. Et mes contacts avec le marabout du village m'ont immédiatement fait comprendre que ce que j'avais compris à la faculté de médecine, eh bien, c'était pas obligatoirement toute la médecine. Donc ça, c'est un point. Donc c'est un art, mais c'est un art qui prétend quand même de plus en plus devenir une science. Et tous les efforts des facultés de médecine depuis je ne sais combien de temps, c'est de scientifiser progressivement le langage, sans doute trop d'ailleurs. Et ce qu'il faut dans les facultés de médecine, ce qu'il faut pour faire un médecin, c'est sûrement pas uniquement de la science, mais c'est sûrement une part importante de sciences humaines.
On va y revenir tout à l'heure. Maëlle Lemoine.
Il y a deux choses importantes dans cette notion d'art. La première, c'est tous les aspects humains de la relation qui sont absolument centraux et qui le restent et qui ont été soulignés. Et il y a un deuxième sens aussi qui est le sens originel, en fait, ars en latin, qui traduit le mot grec techne, qui signifie donc une technique ou des outils. Et ce sens-là, en revanche, il est très important d'insister sur une chose, c'est que si la médecine s'est scientificisée, c'est essentiellement d'abord pour éviter en fait les variabilités et notamment les erreurs humaines. C'est-à-dire, elle s'est encadrée de connaissances pour essayer d'éviter que le destin d'un patient dépende en quelque sorte de la singularité de son médecin ou de ses intuitions les plus dangereuses éventuellement.
On reviendra tout à l'heure sur les erreurs médicales, les erreurs humaines, les erreurs du diagnostic. Hélène Froire.
Oui, je pense aussi que la médecine est certes une science, mais prend de plus en plus en compte d'autres aspects. Je prends un seul exemple, en matière de cancer, c'est évident qu'on va avoir une recherche biologique, des meilleurs traitements, etc. Mais on voit les instances scientifiques qui s'occupent du cancer faire des études de sociologie pour voir d'autres aspects. Les chiffres sont très parlants. Un quart des personnes qui ont eu un diagnostic de cancer ont, 5 ans après, une chute de revenus de, je crois, 20%. 20%. Une personne sur 5 qui a diagnostiqué du cancer et qui travaillait à l'époque du diagnostic n'a plus de travail 5 ans après. Et ça, ce sont des éléments que les médecins prennent de mieux en mieux en compte, en comprenant qu'une fois qu'on a soigné, on n'a pas tout fait.
Vous confirmez, Philippe Humbert ?
Ah oui, tout à fait. Je voudrais souligner aujourd'hui cet aspect très sociétal de la prise en charge du cancer, avec des instituts comme l'Institut Raphaël, avec des entreprises comme Osalis, qui fait des produits cosmétiques pour des gens qui ont le cancer et qui embauchent des femmes qui ont eu le cancer du sein.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une prise en considération aussi des préférences du patient dans le traitement. Et ça, on l'a un peu oublié quand on parlait de médecine par l'épreuve. Le patient est aussi là.
Beaucoup de messages nous demandent quelle est la différence entre soigner et guérir. Maëlle Lemoine, je m'adresse au philosophe.
Ah, pourquoi c'est sur moi qu'elle tombe
sur vous. Ou Philippe Humbert, tiens, quelle est la différence? Vous vous roulez la patate.
J'allais dire soigner, c'est soulager, essayer de soulager au maximum. Guérir, c'est faire disparaître la pathologie. On peut avoir une angine, la faire disparaître sous antibiotiques. On aura guéri le malade, il ne va plus en parler de cette angine. Soigner, c'est souvent accompagner un malade pendant de nombreuses années.
Oui, enfin, il faut revenir aux grands principes fondamentaux de la médecine. D'abord, ne pas nuire. Si possible, soigner et parfois guérir.
Allez, nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Laura Laplot, à la réalisation, Stéphanie Texier.
Otis Redding, Stand By Me.
Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui docteur ou non docteur.
Grand bien vous fasse.
Oh oui docteur.
Sur France Inter.
10h29 et on se demande ce matin si la médecine est une science exacte. Dites-nous si la médecine doit être infaillible. Dites-nous également si vous avez subi des erreurs de diagnostic. Et on accueille Laurence de Nantes. Bonjour Laurence.
Bonjour monsieur, bonjour.
Je suis ravie de vous avoir, Laurence, première auditrice de la semaine. Alors on vous écoute.
Oui, eh bien écoutez, moi je me posais une question quant à la médecine parce qu'en fait j'ai été malade pendant un petit moment, là j'ai eu un cancer. Et en fait je me posais la question, pourquoi est-ce qu'on soigne la maladie et j'ai l'impression qu'on ne prend pas le malade dans son ensemble. Comme je dis souvent, je trouve que la médecine occidentale a tendance à couper au niveau de la tête. Alors que moi, je pense que le mental et le corps sont liés. Et je pense qu'en prenant le malade dans son ensemble, on ferait avancer la médecine très très vite.
Très bonne question, Laurence. Vous précédez l'une de mes réflexions. Est-ce qu'on peut dire de façon très schématique que la médecine se divise entre une médecine qui se concentre sur l'organe malade à l'aide d'une série d'analyses et d'images pour arriver à un diagnostic très précis, et puis une médecine qui se concentre davantage sur l'ensemble du patient, car une maladie ne se réduit pas évidemment à un organe malade. Qui veut répondre à Laurence? Tiens, Jean-Noël Fabiani, professeur Jean-Noël Fabiani, vous publiez une très belle BD, L'incroyable histoire de la médecine.
Moi, je veux répondre en disant que les médecins, ils sont formés pour faire des techniques et faire des traitements. Ils ne sont pas ou très mal formés pour leurs relations humaines. Et il faut absolument que nous prenions dans l'avenir plus en considération la formation des médecins en ce qui concerne le problème humain. Et vous avez évidemment parfaitement raison, madame, de dire que la guérison passe aussi par une relation entre le médecin et le malade, une relation humaine. Mais il faut, c'est la seule chose que je peux dire. Alors heureusement, certains médecins l'ont naturellement, heureusement. Mais ils n'ont pas été formés pour cela dans leurs études. Il faut bien reconnaître.
Maël Lemoine, professeur à l'Université de Bordeaux.
Oui, ben justement.
Philosophe de la médecine.
Voilà, merci. Justement, en fait, je pense que une des explications à ce phénomène, donc vous avez tout à fait raison, hein, c'est un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est un constat qui est fait universellement. Une des raisons se retrouve en fait dans la formation justement de ces étudiants, et je pense que la vraie difficulté pour eux, et ces étudiants deviennent bien sûr des médecins ensuite, c'est essentiellement la peur qu'ils ont. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont hantés par la peur de rater quelque chose. C'est-à-dire la peur qu'on puisse leur reprocher d'avoir mal fait leur travail. Et c'est vraiment ça qui explique, à mon avis, hein, pour l'essentiel, ce côté qui peut avoir l'air un peu inhumain dans la pratique médicale.
Professeur Philippe Humbert.
Oui, Laurence a raison de considérer l'être humain dans sa globalité. On sait aujourd'hui, les études l'ont prouvé, que Un malade qui a un psoriasis, par exemple, a une chance sur deux de souffrir de dépression. Donc, on doit prendre en compte la dépression. On sait également que les événements douloureux de la vie conduisent au développement de certaines maladies, des cancers en particulier, que ce soit un viol, que ce soit une agression, que ce soit un incendie. Donc, tous ces aspects psychiques conditionnent la survenue ou la persistance d'une maladie.
Laurence ?
Oui.
Est-ce que...
Oui, écoutez, je suis très heureuse de vous entendre dire ça, parce que avec mon oncologue, je me suis un peu mise en colère, parce qu'à l'annonce de mon protocole, si vous voulez, il n'a pas tenu en compte les événements qui se sont passés dans ma vie avant, juste avant la déclaration de mon cancer, c'est-à-dire que j'ai mon ex-mari qui s'est suicidé, j'ai ma mère qui est décédée dans la même année, et un mois après, j'avais un cancer du sein. Et voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, ben voilà, ça, c'est un déclic, c'est mon corps qui répond à tous ces événements. Et j'en suis persuadée. Et en fait, heureusement que j'ai eu des rendez-vous avec un psychiatre. Et depuis, j'arrive à parler. Et en fait, tout ce qui peut sortir par la parole, eh ben, j'ai l'impression que je me sens mieux dans mon corps.
Jean-Louis Fabiani.
Alors, vous posez, madame, une question très difficile. Quel est le lien entre tous les problèmes que vous avez eus dans votre vie et le déclenchement d'un cancer du sein? Alors, c'est tout à fait possible, en effet. On est en train d'étudier le fait que l'immunité, c'est-à-dire la capacité de se défendre du corps, peut être affaiblie par un certain nombre de problèmes psychologiques, mais on n'en a pas encore fait d'une façon claire la preuve.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
Et même si on n'en a pas fait la preuve, il faut effectivement accompagner les personnes qui souffrent de traitement, de soins de support.
Hélène Froire de Sciences Humaines.
Oui, et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui explique beaucoup l'appétence des personnes pour les médecines non conventionnelles, donc médecine chinoise, plantes, etc. Et dans le cas du cancer, c'est vraiment très impressionnant. Donc il y a très peu de gens qui vont faire appel à ces médecines alternatives, 4% en Europe, en croyant que ça les soignera d'un cancer, heureusement. Mais en revanche, plus de 2/3 des patients qui ont un cancer, ils font recours parce qu'ils en ont besoin à la fois comme soin de confort, ce qui n'est pas du tout du superflu, et aussi parce que c'est des lieux où il y a beaucoup d'écoute. Quand on sait qu'une consultation de médecine générale dure en moyenne 17 minutes, on se rend compte ce que peut être l'attente des patients.
Philippe Amber.
En prenant en charge les douleurs morales de ces patients qui, notamment des cancers, les études ont montré que la longévité était accrue, que les chances de guérison étaient améliorées. Donc il faut prendre en compte tous ces événements. C'est Paul Valéry qui disait que de choses il faut ignorer pour agir. Et on n'a pas besoin de connaître encore aujourd'hui les liens entre l'événement douloureux, le décès de son ex-mari, et le cancer, mais certainement qu'on les découvrira dans quelques années.
Merci beaucoup à Laurence de nous avoir appelé ce matin au 01 45 24 7000.
Elle est trop jeune pour une ostéoporose aussi grave.
Et trop vieille pour une ostéogénésis imperfecta.
Ce qui nous laisse un cancer des os.
Tu vas un peu loin là.
Pourquoi ? Parce que des tumeurs à métastase n'expliquent pas l'IRM anormal, les problèmes de reins, la bouche en coton et la diplopie ?
Mais si, justement.
Une infection peut faire ça aussi.
Ça n'est pas une infection.
Ah, parce que vous savez que le dossier médical non existant confirme que les brillants médecins de Cuba l'ont traité pour une infection? Ou parce que vous léchez les bottes de Forman?
Parce qu'une infection provoquerait de la fièvre et que les brillants médecins qui bossent dans mon service ont déjà rayé ça de la liste parce que le
mari... C'est toi qui as dit qu'il était possible que deux personnes aient les mêmes symptômes pour des raisons différentes.
Et c'est toi qui as dit que si on faisait ça, on pouvait laisser de côté tout ce qu'on avait trouvé au mari.
Oui, et après t'as proposé de faire quelque chose de productif, genre lui casser le bras.
Forman ne lui a pas cassé le bras.
Bah voyons.
C'est le cancer. Faites un PET scan et voyez si ça pète ailleurs.
Extrait de la célèbre série américaine Dr. House. Professeur Philippe Amber, quelles sont les grandes étapes de la démarche médicale? Tiens, je viens vous voir car j'ai mal au ventre. Quelle est votre démarche?
Alors la démarche essentielle se fait en 3 étapes. Premièrement, l'interrogatoire. Le questionnement du patient est essentiel. Et plus on posera de questions, plus on arrivera au diagnostic. Parfois, les jeunes médecins peuvent être bloqués au bout de la 4e question, ne savent plus quoi poser comme question. Il faudrait arriver à 30, 40, 50, parfois même 80 questions. Parce que si on vient vous voir pour une douleur de l'épaule, si vous ne savez pas que quelque temps plus tôt, il y a eu des symptômes digestifs, ou des douleurs précordiales, ou un essoufflement, comment rattacher cette douleur de l'épaule à un problème cardiovasculaire ou digestif, alors que si on va directement à l'examen clinique, on pensera qu'il y a une maladie de l'épaule. Donc le questionnement, première étape. Deuxièmement, l'examen clinique complet, quel que soit le symptôme, parce qu'on ne sait pas, vous avez mal au bout d'une oreille ici, les ORL savent que ça peut être une tumeur au niveau du cou qui va donner cette douleur de l'oreille, par le réseau cervical superficiel par exemple. Donc Cette jeune fille qui se gratte partout, si on ne regarde que sa peau, comment va-t-on trouver la maladie de Hodgkin, c'est-à-dire les ganglions qu'elle a? Le médecin, quel que soit le symptôme, va examiner complètement le malade. Troisième, dernière étape, on regarde les examens dont dispose le malade avant d'en prescrire des nouveaux, parce que il a parfois tout, sur des prises de sang antérieures, l'analyse qui a montré qu'il avait attrapé un parasite 10 ans plus tôt, par exemple. Et si ce malade vient pour un symptôme en relation avec ce parasite, ça serait très utile.
Professeur Jean-Noël Fabiani, en dépit de tous les progrès scientifiques, technologiques, le diagnostic ne peut pas être infaillible.
Évidemment, le diagnostic ne sera jamais infaillible.
Mais nous sommes de plus en plus exigeants.
Nous sommes de plus en plus exigeants. Et nous allons avoir, obligatoirement comme aide, l'intelligence artificielle. Sachant qu'actuellement, un certain nombre de programmes, sans voir le malade, en posant 120 à 130 questions, sont capables d'arriver à un diagnostic exact dans 85% des cas. Ce qui est absolument extraordinaire. Et puis, ce que vient de rappeler notre collègue, c'est un examen bravo, formidable. C'est l'examen qu'on apprend à faire à nos étudiants. Mais c'est un examen idéal. Mettez-vous à la place d'un médecin traitant qui est payé 25 euros la consultation. Faut dire les choses quand même de temps en temps. Comment voulez-vous qu'il fasse un examen qui va prendre presque une heure si on veut le faire correctement? Il ne va pas pouvoir le faire.
Baptiste Beaulieu, écrivain et médecin.
Ah, je confirme, moi je consulte sans rendez-vous et quand on a 10-15 personnes qui attendent en salle d'attente, il y a aussi ce sentiment d'oppression terrible, de devoir aller vite pour que les gens n'attendent pas, parce qu'en plus ils vous le font bien sentir quand vous faites sortir les patients, ils vous regardent tous avec des grands yeux comme ça.
Oui, mais là il y a des médecins, mais il y a plein d'endroits en France où il n'y a même plus de médecins.
Alors, quand une erreur de diagnostic survient, le patient est souvent ébranlé car il a foi dans son médecin censé disposer des derniers progrès scientifiques et médicaux. Jean-Noël Fabiani.
Et oui, bien sûr, parce qu'on a vécu et on vit la saga de la médecine triomphante qui est relayée par les médias en particulier. On ne parle de médecine que quand c'est un succès, quand c'est une première. Et on a l'impression, si on écoute que ces messages, que la médecine triomphe en permanence et va aboutir à la guérison de tout le monde.
Et qu'elle est infaillible.
Or, évidemment, tout ceci est faux. Et très souvent, la première qu'on a sortie comme une nouveauté extraordinaire, quelques mois après, s'avère être finalement moins performante qu'on l'avait dit.
Maël Lemoine.
Il y a un point déjà qui est extrêmement intéressant, qui a été étudié depuis les années 60 à peu près, c'est le nombre effectivement d'erreurs médicales. C'est-à-dire quand on demande à un médecin comment il diagnostique, souvent le médecin ne sait pas bien répondre, parce que c'est très compliqué le diagnostic. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est vérifier le résultat du diagnostic posé. Et les chiffres peuvent être parfois assez inquiétants, c'est-à-dire qu'on a trouvé dans certaines études, notamment de diagnostic en médecine générale, des taux d'erreur pouvant aller jusqu'à 70 ou 80%. Donc c'est extrêmement inquiétant, ça semble extrêmement inquiétant, mais quand on regarde un petit peu plus en détail, le plus étonnant, c'est que la grande majorité de ces erreurs de diagnostic sont sans conséquence, parce qu'en fait on va consulter pour des maladies pour lesquelles il faut une surveillance, évidemment, mais pour lesquelles la médecine, enfin disons la mise en charge d'une thérapie ou une démarche thérapeutique par le médecin va être sans conséquence ni négative ni positive.
Alors nous autres patients acceptons de plus en plus mal les erreurs du diagnostic, c'est ce qui explique la multiplication des plaintes médicales, Hélène Froire.
Alors, on a l'impression qu'on multiplie les plaintes, on a un peu le modèle états-unien de la judiciarisation.
C'est faux, c'est une erreur.
Eh bien, écoutez, Janine Barbeau, une chercheuse, a fait un très bel article dans notre numéro de Sciences Humaines, et elle montre qu'en fait, ces plaintes, c'est pas vraiment qu'elles se multiplient. En réalité, elles sont à peu près égales, et surtout, on a des très bons outils pour y faire face, dont la loi Kouchner de 2002, qui permet d'indemniser les personnes qui ont été victimes de faute à pas de chance, quoi. Voilà, personne n'est responsable, mais la personne a subi un dommage. Et ces plaintes, on le voit, quand elles se vont jusqu'aux tribunaux, dans d'autres cas, elles sont très multiformes. Parfois, c'est pas de l'argent que les gens veulent, ils veulent simplement qu'on leur fasse justice, qu'on dise oui. Telle personne a mal agi, il ne faut pas qu'elle recommence. Parfois, elles veulent une indemnité parce que si votre enfant est handicapé, bah, vous avez des frais, il faut y faire face dans ce cas-là. Bref, il y a plein de sortes de plaintes et il ne faut pas les caricaturer.
Jean-Noël Fabiani.
Écoutez, moi, ça fait 15 ans que je suis au conseil de l'ordre des médecins et j'ai été le médiateur de mon hôpital. Donc, je peux vous dire que le nombre de plaintes, en termes arithmétiques, n'augmente pas véritablement pour se rapprocher des États-Unis. Cependant, il faut dire que la plupart des plaintes, et là je vais dans le sens de ce que vient de nous dire madame, c'est tout de même que les gens ont eu un mauvais contact avec l'équipe soignante et qu'ils veulent avoir des explications qui n'ont pas été suffisantes. Ou bien, quand il y a eu décès, ils veulent pouvoir faire leur deuil avec une explication claire et éventuellement la reconnaissance d'un certain nombre d'erreurs qui ont été faites. Et ça, c'est le rôle des médiateurs dans les hôpitaux, c'est le rôle d'un certain nombre de personnes, mais on revient sur ce que nous disions tout à l'heure, c'est le déficit, en quelque sorte, de contact humain de beaucoup de médecins.
Et d'écoute.
Et d'écoute.
Et il est temps de retrouver la chronique de notre écrivain et médecin, Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, tous les lundis, vous nous racontez une médecine à visage humain. Vous nous avez fait... On a salivé tout à l'heure à l'écoute de votre teaser. Hein.
Bon, j'espère que je vais tenir mes promesses. Bon, je vous raconte aujourd'hui le visage de Théo. Il faut imaginer un enfant de 2 ans qui est habillé avec une minuscule salopette, un petit nounours à la main, et puis un grand, grand regard curieux, 2 petites billes bleues plantées au milieu, et sa maman qui veut parler. Elle veut se confier, mais elle n'ose pas laisser son petit en salle d'attente. Alors, elle le prend sur les genoux et le petit joue avec sa voiturette. Pendant que sa mère, elle parle. Et elle pleure sa vie sur mon bureau. Moi, je lui tends des mouchoirs au fur et à mesure. L'atmosphère est lourde et il vient un moment où la maman se tait. Moi, je ne dis rien, je la relance pas. C'est très important, le silence dans la consultation. Dire et taire, c'est un équilibre fragile, mais précieux. Je veux faciliter l'expression de ses sentiments tout en lui communiquant et mon intérêt et mon empathie. Nous sommes donc là, à nous observer dans le blanc des yeux. Les siens sont humides, les miens un peu usés, c'est la fin de la journée. Et l'écoute, je la veux attentive, centrée sur la patiente. Grand silence. Et tout à coup, Vlatipa, que le petit Théo, sur ses genoux, se penche, et je ne sais pas comment dire les choses avec élégance, mais lâche un énorme gaz, un prout monstrueux. Je ne savais même pas que c'était possible un truc aussi monumental dans un si petit corps. Alors, nous nous sommes regardés avec la mère, et elle a éclaté de rire, et j'ai éclaté de rire, et après avoir pleuré, de rire autant, ça lui a fait beaucoup de bien à cette mère. Et je voudrais qu'on prenne un instant pour remercier la nature d'avoir inventé le prout. Quelle belle invention! Je suis sûr que le premier fou rire de l'histoire de l'humanité, c'était dans une grotte. Il y avait les Homo erectus qui mangeaient leurs cuisses de mammouth grillées en mode virilité grou-grou. Moi, j'imagine toujours Alain Chabat, je sais pas pourquoi. Et l'un d'entre eux a vanté. Et tout le monde a ri pour la première fois. Et le prout, c'est génial. Ça se fiche que vous ayez le cancer, la dépression ou le lupus, il vient. Il vient, le vent, et il se fiche que vous pleuriez toutes les larmes de votre corps devant le médecin. Il surgit et il fait rire. C'est l'arme de protection massive inventée par le corps contre la mort, contre le désespoir. À quoi sert d'avoir toujours sur mon bureau une boîte de mouchoirs pour épancher les larmes de mes patients quand je pourrais avoir un bouton sur lequel j'appuierais et qui lâcherait des... Je sais pas trop faire les proutes avec la bouche.
Ça, je vous confirme.
Bref, je veux que la boîte à paix soit remboursée par la sécu. Et ce qui est génial aussi dans cette situation, c'est que l'enfant, il se moque tout autant du cancer, de la déprime ou du lupus, ou même des larmes de sa mère. Son corps parle, et lui le laisse s'exprimer sans honte. Ce gosse était un magicien, il nous a consolés avec le plus vieux gag du monde. Je dis, il faut des bébés qui pètent partout, tout le temps, pour affronter la condition humaine. Vous savez, je suis médecin, je suis aussi romancier, et j'aime bien placer quelques situations, excitations bien senties, si je peux me permettre, à la fin de mes chroniques. Et Marguerite Duras écrivait « L'essentiel de ma vie a été de choisir tous les soirs entre la soupe poireau pomme de terre ou le suicide. » Eh bien, sache, Marguerite, Maggie, Mag, Marguerite Ounette, que tu aurais pu choisir Théo, l'enfant qui pète. Le bébé prouteur, c'est le remède ultime à l'absolue tragédie de notre condition humaine. Merci Théo et merci le prout.
Et pour aller plus loin, on peut lire L'art de péter, publié en poche chez Payot de Pierre-Thomas Nicolas Hurteau. Merci beaucoup Baptiste Beaulieu. Une chronique à voir en vidéo sur la page Facebook de France Inter. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos de Baptiste Beaulieu. Allez, on continue à se demander si la médecine est une science exacte. 01 45 24 7000.
Cause
chasseurs se préparent. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver le point qui redécile. Je vais chercher et hautement les coups portés sur moi, la violence facile. Je vais marcher tout le temps et je m'en vais forcer les regards agressifs. Fièvre au matin, nouvel air. Je m'en suis fait, je vais m'en défaire. À la blessure, c'est plus rien. J'ai connu pire, j'ai connu la honte. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver les points qui redescendent.
Ça vous plaît, hein, Baptiste Bollior?
Oui, j'aime bien.
Christine and the Queens, la marcheuse.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h49 et on se demande ce matin si la médecine est une science exacte. Dites-nous si vous avez par exemple subi des erreurs de diagnostic. Alors on assiste à une médecine de plus en plus sophistiquée, technologique, qui fait peut-être passer au second plan l'écoute et l'examen clinique du patient, Philippe Humbert. Je caricature ou pas?
Oui, c'est toujours... On essaie d'aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et ce qu'a dit le professeur Fabiani tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord, nous l'avions dit dans une précédente émission, les conditions d'exercice des médecins ne sont pas là hauteur des attentes des patients. Et si on veut prendre du temps, effectivement, il faudrait rémunérer l'acte. Et donc, par facilité, on va faire des examens complémentaires et qui ne sera peut-être pas le bon examen à faire pour ce malade. Et on peut passer à côté d'une pathologie.
Professeur Jean-Noël Fabiani.
Et pour rebondir en quelque sorte, eh bien, hélas, on ne privilégie pas l'examen clinique en France, alors que la consultation, c'est l'acte intellectuel de la médecine par définition. Et pour s'en sortir, eh bien, le confrère est obligé de demander des examens complémentaires qui finalement vont coûter beaucoup plus cher que si on honorait correctement la consultation clinique initiale.
Maël Lemoine, philosophe de la médecine.
À l'origine du problème, je pense qu'il y a un fait tout à fait fondamental, c'est l'augmentation énorme de la demande de médecine. C'est-à-dire, en fait, nous demandons de la médecine, nous demandons beaucoup de médecine. Nous voulons que le médecin nous rassure, nous voulons que le médecin vérifie qu'on a quelque chose de sérieux ou pas, ou qu'on n'a pas quelque chose de sérieux. Et la difficulté, c'est que pour le médecin, il doit faire ce tri en permanence entre ce qui va être quelque chose qui relève vraiment du soin médical, et ce qui, au sens vraiment technique du terme, et ce qui va relever simplement de l'accompagnement, ou même simplement du fait d'être rassuré. Quand on dit, par exemple, j'entends souvent protester les gens dire on va consulter pour n'importe quoi, pour un bobo, pour un tout ou un rien. Et en fait, la vraie difficulté, c'est tout simplement que quand on n'est pas médecin, bah, par définition, on ne sait pas si on a quelque chose ou pas. Donc on va voir le médecin pour qu'il nous dise si on a quelque chose ou si on n'a rien. Et le médecin doit faire ce tri.
Hélène Froire, de Sciences Humaines.
Oui, et d'ailleurs, c'est un article que nous avons intitulé « La tyrannie de la bonne santé » dans le dossier sur les sciences humaines et la santé que nous publions. En fait, on est en permanence renvoyé à l'obligation de nous contrôler nous-mêmes, manger 5 fruits et légumes, bouger, faire des examens. Donc nous-mêmes, on se sent coupable de ne pas faire cette démarche en permanence d'aller vers la médecine.
Aline Perraudin, de Santé Magazine.
Oui, là, je trouve que c'est un peu autre chose, la tyrannie de la santé. Je voulais revenir sur les examens complémentaires qui sont parfois anxiogènes. Et c'est vrai que le public le demande parce qu'on est fasciné par les images et on pense qu'on va avoir la vérité dans une IRM. Et en revanche, elle donne pas toujours la vérité, l'image. C'est peut-être ça qu'il faut expliquer. C'est pas facile pour les médecins.
À propos de vérité, justement, Maëlle Lemoine, est-ce qu'on assiste à la montée en puissance, à la surpuissance de la médecine basée sur les preuves qui s'impose de plus en plus dans la prise de décision médicale?
Alors c'est difficile parce que je dirais que c'est plutôt un mouvement qui maintenant, alors peut-être pas tout à fait appartient au passé, ça serait trop fort de le dire, mais c'est un mouvement déjà ancien, c'est-à-dire qu'il a déjà presque 30 ans maintenant, et il a déjà pour l'essentiel donné ses effets. Donc là on est plutôt dans une phase de reconstruction critique où les partisans et les porteurs de ce mouvement cherchent à l'améliorer et notamment, on en parlait tout à l'heure, à ne pas à adapter cette médecine fondée sur les preuves.
Vous pouvez nous expliquer ce que c'est en quelques
mots ? Oui, bien sûr. Alors médecine fondée sur les preuves, essentiellement, parce qu'on se pose toujours la question, avant l'avènement de la médecine fondée sur les preuves, ça veut donc dire que les médecins ne cherchaient pas de preuves. En fait, c'est un mouvement qui a consisté à remettre en cause la simple autorité du médecin, en disant par exemple, c'est le chef de service donc il a raison par exemple, donc ça c'est l'argument d'autorité par excellence. Alors évidemment le chef de service qui est à ma droite n'est pas du tout visé naturellement. Ce qui se passe et ce qui fonde vraiment son savoir à ce chef de service, c'est pas le fait qu'il est chef de service, c'est le fait qu'il s'appuie sur des connaissances. Et c'est ça le point qui était central dans le mouvement d'evidence-based medicine, c'était de remettre au centre de la justification d'un choix thérapeutique la connaissance scientifique.
Jean-Noël Fabiani.
Alors, tout ce mouvement est basé sur des grandes études qui ont été lancées dans le monde entier, et en particulier par les États-Unis, il faut bien le reconnaître, parce qu'ils sont doués pour ça, beaucoup plus que les pays européens, et ces grandes études ont apporté parfois des connaissances extraordinaires. La Framingham Study, qui a étudié pendant 40 ans la population d'un village aux États-Unis, nous a apporté les facteurs de risque de la maladie athéromateuse. Donc c'est quand même très important. Mais, bien entendu, des grandes études ont été lancées pour soutenir un produit, un nouveau médicament, soutenu parfois par le laboratoire. Et on a accusé ces grandes études d'être éventuellement biaisées par le fait que ce soit un laboratoire qui les avait déclenchées. Et toute la discussion actuellement vient de là, et je rejoins notre philosophe, parce que les grandes études, eh bien finalement, même si elles semblent très très puissantes, parce qu'elles ont plusieurs dizaines de milliers de patients, eh bien parfois elles sont quand même mises en question.
Philippe Humbert. Alors,
heureusement qu'on ne s'appuie pas toujours sur des preuves, parce qu'on pourrait passer à côté de beaucoup de diagnostics. Il y a des diagnostics qui n'ont pas de preuves. Imaginez quelqu'un qui a un prurite anal. Il a une grande chance d'avoir un parasite intestinal. Si vous voulez une preuve, vous allez rechercher le parasite dans les selles. Or, on sait que le parasite ne s'y trouvera pas dans 70% des cas. Et donc, il vaut mieux avoir la suspicion et traiter. C'est le traitement qui sera la preuve diagnostique et pas de découvrir le parasite.
Mais le moine.
Alors, attention, pour le mouvement de l'evidence-based medicine, il ne s'agit pas de prouver, par exemple, en allant faire un examen complémentaire, mais simplement, par exemple, en établissant une corrélation. C'est-à-dire, ce prurit dont vous parlez, si on sait qu'il est à 70% dû à un parasite, c'est justement parce qu'il y a eu des études de ce type.
Question que je l'adresse à tout le monde là autour de la table. Y a-t-il suffisamment de sciences humaines en médecine, Jean-Noël Fabiani?
Non.
Et est-ce que l'enseignement médical ne s'est pas, vous le dites, fondamentalisé?
Et il s'est fondamentalisé parce qu'il y en avait besoin à un
certain
moment.
Autour
des sciences dures. Il y en avait besoin. Et puis aussi un effet pervers, qui est que les facultés de médecine, elles veulent être bien classées dans la classification de Shanghai. Or, c'est plus facile d'avoir des publications dans des revues à impact factor élevé dans les sciences dures et les sciences médicales, éventuellement, et la biologie, que dans les sciences humaines. Autrement dit, les doyens dans les facultés ont plus intérêt à recruter des professeurs dans les sciences dures que des professeurs de philosophie, que des professeurs d'éthique, des professeurs de psychologie ou des professeurs d'histoire.
Maëlle Lemoine.
Alors, c'est complètement vrai, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. Juste un point que j'ajoute, c'est qu'on constate aussi que ces enseignements de sciences humaines en médecine ne font qu'augmenter, ne font qu'accroître en volume et en importance. Donc, dans la réforme qui est prévue des études médicales, par exemple, c'est en discussion en ce moment. Il s'agit d'introduire les sciences humaines dans le second cycle des études médicales.
Bonjour Stéphane, vous appelez de Poitiers.
Bonjour.
Quelle est votre réflexion, votre question?
Vite fait, alors bonjour à tous déjà.
Bonjour.
L'information sur Internet a changé à l'époque de la médecine.
Vous n'avez pas bien entendu, il y a un petit problème de liaison. Vous demandez comment Internet a-t-il changé notre rapport à la médecine, Maëlle Lemoine.
D'une double manière. D'abord pour le patient, parce qu'il est dans une situation paradoxale. C'est-à-dire qu'à la fois il est assailli par des tas d'informations dont il ne sait que faire. C'est-à-dire qu'il ne sait trier ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas. Et puis d'un autre côté, son niveau, il faut le constater, son niveau d'éducation et de formation en médecine ne cesse de s'élever. Donc ça, c'est le premier point. Et puis pour le médecin, ça le met très souvent dans une situation paradoxale. C'est-à-dire que son autorité médicale est remise en question par le fait qu'il y a une deuxième source d'information. Mais ça, tout le monde le connaît, les enseignants aussi.
Jean-Noël Fabiani.
Vous savez, qu'en tant que chirurgien cardiaque, quand les patients viennent me voir, ils ont tous été voir leur opération sur Internet. Le résultat a été extraordinairement anxiogène pour eux. Donc, nous, on a un travail terrible à faire derrière cette anxiété pour essayer de simplifier les choses.
Hélène Froid.
Oui, l'anthropologue Sylvie Fanzing le montre bien. Les Français achètent en moyenne 48 boîtes de médicaments, mais en fait, on ne sait pas très bien ce qu'ils en font. Et certains ne les prennent pas en disant « Ben non, j'ai lu sur Internet que celui-là était dangereux, je vais décider moi-même.
Voilà. » Merci hein, Stéphane d'avoir appelé. En quelques secondes, la médecine est-elle une science exacte? Répondez-moi rapidement autour de la table. Philippe Humbert.
Non, on ne sait pas. Non.
Maëlle Lemoine.
Je vais dire oui.
Moi, je dirais non. Je dirais non et elle ne le sera jamais pour moi.
Merci à tous d'être venus ce matin. Je recommande les grands dossiers de sciences humaines, soigner une science humaine. Merci Jean-Noël Fabiani, je recommande votre bande dessinée très pédagogique, l'incroyable histoire de la médecine. Merci Philippe Humbert, vous avez publié Avez-vous un bon médecin demain, et merci également Maëlle Lemoine. Demain, émission spéciale avec le psychiatre Christophe André. Pour la première fois, ceux qui le veulent pourront méditer en direct sur France Inter. Vous pourrez également poser toutes vos questions sur la méditation, même les plus critiques. Cette émission spéciale sera diffusée en vidéo et en direct sur la page Facebook de France Inter. Et notre camarade Fabienne Sintès tentera de méditer. Et la méditation, c'est pas forcément sa tasse de thé. À la technique ce matin, Paul Percheron et Anne-Laure Cochet. À suivre, Nagui et sa bande originale.